Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de la nouvelle saison de notre attendue et riche série L'écologie aux petits oignons. La série qui emprunte les mirettes d'humains passionnés de ces multiples êtres peuplant notre planète. À chaque épisode, nous tendons la feuille et l'oreille pour que l'humain, dans toute sa diversité, nous parle de sa vision du vivant. Cette semaine, notre invité nous embarque dans la poésie d'un paysage guidé par l'humain. Peux-tu te présenter pour nos auditrices et auditeurs ?
Moi c'est Julien Fourmi, je suis paysagiste depuis que je suis sorti de l'école. Enfin, je travaille pour des particuliers, essentiellement. Et à côté de ça, je fais du slam, pas mal de petites choses artistiques. J'ai pas un parcours dingue. En sortant au collège, j'étais pas sage, donc mes parents me demandaient ce que je voulais faire plus tard. J'ai dit que je voulais être dans l'agricole, moi il fallait que je sois dehors, que je vois la terre, les animaux. Donc j'ai fini dans un lycée privé catholique à Bapaume, Saint-Éloi. J'ai fait 3 ans là-bas, ce qui m'a permis de déjà connaître la terre, etc. Quoi. Ensuite, par la suite, de me rendre compte que l'agricole, quand on n'en est pas issu de base, c'est un peu compliqué. Et du coup, après, je suis parti au lycée horticole de l'Homme. Pendant 2 ans, j'ai obtenu mon bac. J'ai bossé pour une ADMR, enfin 2 associations d'aide à domicile, à la base. Puis après, je me suis renseigné un petit peu sur comment monter son entreprise, etc. Et finalement, je ne l'ai jamais fait, je fais du chèque emploi service, ce qui est beaucoup mieux.
Qu'est-ce que le vivant signifie pour toi ? Saurais-tu le décrire en 3 mots ? Un goût, une odeur, une couleur, une texture ?
Moi je dirais quelque chose qui évolue et qui dure dans le temps en fin de compte, le vivant. Pour moi c'est ça, c'est peu importe que ce soit vivant ou pas, il faut vraiment s'assurer que ça tienne dans le temps pour être vivant. Quoi. Quand on plante un arbre, on réfléchit à quelle taille il va faire dans 40 ans pour être sûr de ne pas avoir à le couper avant qu'il soit malade ou qu'il tombe tout seul, etc. Quoi. Des choses que pas grand monde réfléchit finalement, à part quand on est dans le métier. Mais moi c'est la première chose qu'on m'a appris au lycée horticole en tout cas. Le goût du vivant. Pour moi c'est le sucre le goût du vivant. Enfin, moi quand je suis dans les jardins, que je bricole, tout ça, que je suis sous les fruitiers, je peux pas m'empêcher d'attraper un fruit. Et pour moi le vivant, vraiment quand je suis vivant dans mon métier, c'est au printemps. En même temps que la nature. Et l'odeur du vivant. Malheureusement, quand on la sent mieux, c'est quand on anéantit un peu le vivant dans le métier. Quoi. L'odeur du bois, c'est quand on coupe, qu'on broie, etc. Bon, c'est pas toujours négatif, évidemment, surtout que nous, on le fait à peu près bien, on va dire. Mais l'odeur du bois coupé, ouais, c'est quelque chose.
La couleur ?
Vert, forcément vert. C'est l'espoir, c'est pas mal de choses, quoi. Et pour moi, c'est le vivant, c'est le vert, forcément. Pour moi, la texture du vivant, elle est molle. Comme le sol dans la forêt, forcément, bien aéré, bien vivant. Un son, ah, le chant des oiseaux, même ceux de la nuit s'il faut. Ouais, puis malheureusement, on l'entend de moins en moins, faut bien le dire, quoi. Je suis pas très vieux, mais comparé à quand j'étais petit, moi qui passe tous les jours dehors, je peux te dire qu'on les entend beaucoup moins.
Comment retranscris-tu cette vision du vivant dans tes projets ?
Comme je t'ai expliqué par rapport à tout à l'heure, les arbres, on essaye de réfléchir à quoi ils ressembleront dans 20 ans quand on les met. Et moi, ce que j'essaye de faire le plus possible, c'est de mettre ça dans la tête de mes clients, en fait, pour qu'ils comprennent vraiment ce que je fais, pourquoi je le fais, etc. Et j'ai d'ailleurs des clients avec qui j'ai très très bien réussi, on va dire. J'ai des clients chez qui j'ai commencé et que ça les ennuyait de tailler la pelouse où il n'y avait pas un arbre. Je pense particulièrement à un client qui est décédé cette année, malheureusement, Casimir, mais j'ai commencé chez lui en 2008, il ne connaissait rien du tout, et ces derniers temps, quand moi j'y allais, ces dernières années, c'est lui qui m'apprenait quelque chose. Il ne connaissait rien, il était en retraite, aujourd'hui il grève, incroyable quoi, c'est le client qui j'ai le mieux réussi. Expliquant les choses gentiment, après des fois je sais qu'il y a certaines choses sur lesquelles il doutait un peu, il vérifiait sur internet, la semaine d'après il me disait « Ah oui, t'as raison, faut faire comme ça ». Et voilà, au début c'est compliqué de convaincre les gens, par exemple, pour un gazon, tout le monde il veut le petit gazon comme au golf, qu'il soit court, qu'il soit tout vert, qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes, rien du tout. Alors que ça, c'est un gazon malade, quoi. Toutes les plantes sont envahissantes, le gazon, faut le laisser faire une certaine hauteur. Faut laisser la pelouse, quitte à le tailler souvent, mais le laisser très haut, pour que la lumière n'atteigne pas le sol, et comme ça, les autres herbes, une fois qu'il est assez haut, tu vois une pâture à vache, on ne traite pas, et comme l'herbe elle est assez haute, il n'y a pas de mauvaise herbe à travers, quoi. C'est même plus propre que chez les particuliers. Si tu le fais court, le jour il tape le sol, tout ce qui est autour, ça germe. Après, mettre de l'engrais pour que ça repousse au printemps, puis se plaigner l'été parce qu'il faut tondre toutes les semaines. Enfin, c'est. Voilà, donc j'ai mis du temps à convaincre certains. Heureusement, après, j'ai des clients, j'ai la. Enfin, pas dire que c'est une chance, mais j'ai beaucoup de clients qui sont retraités, donc ils passent pas leur temps à courir dans la pelouse à pieds nus, forcément. Donc, même si on laisse un peu l'herbe, etc., qu'on la laisse haute, ça dérange personne. Mais c'est pas adaptable chez tout le monde. Certaines familles, ouais, c'est compliqué, puis il y a des gens pour qui c'est inconcevable. Par exemple, les pissenlits, moi j'ai jamais fait de produits. Enfin, j'ai utilisé des produits parce que j'ai travaillé en mairie, etc. Mais depuis que j'ai 21, 22 ans, j'ai plus jamais utilisé de produits. Quoi. Et si quelqu'un, même un de mes clients, me demande d'utiliser le produit, je refuse. Quoi. Après, il fait son choix, soit il le fait lui-même, soit. Et moi je le fais pas.
D'après toi, qu'est-ce que l'humain peut apporter à l'ensemble du vivant ?
Ça, c'est une très très bonne question, ça. Parce que quand je vois les choses avec du recul, ce que l'homme est en train de faire avec la nature, le fait qu'on se croit un petit peu supérieur à tout, je pense que le mieux qu'on pourrait faire avec le vivant, au final, c'est peut-être même le laisser tranquille. Parce que bon, on se croit supérieur aux animaux et aux bêtes parce qu'on sait les abattre, mais en réalité, ils sont bien supérieurs à nous. Demain, on prend la planète, si on enlève les plantes, on meurt. Si on enlève les animaux, on meurt. Demain, on prend la planète, on enlève les humains. Eux, ils se portent très bien, quoi. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, je pense que la meilleure chose qu'on peut apprendre à faire avec le vivant, c'est de le laisser tranquille. Même la façon dont on gère nos forêts, tout ça, dès qu'on nous met la patte dedans, même si c'est l'ONF ou quoi que ce soit, ils font des grosses bêtises, pour pas dire de gros mots. Mais voilà, il y a des exemples même pas loin d'ici, dans le bois de Vimy, par exemple, qui est pourtant un bois historique, où il y a aussi le monument canadien, etc. Quelques années en arrière, il y a les frênes qui ont été touchés par une bactérie. L'ONF il a eu la super bonne idée d'enlever tous les frênes morts dans le bois, des très vieux frênes remplis de lierre. Ils ont enlevé tout ça, ils ont créé des couloirs de vent dans le bois. Et à la tempête d'après, il y avait un quart du bois qui était par terre, forcément. Et je peux te dire qu'à l'époque, j'habitais à Vimy. Alors je sais que les gens qui vont dire on va parler de vivant, ils sont pas trop copains avec les chasseurs, mais moi j'ai vu des chasseurs sortir du bois avec les larmes aux yeux à cette époque. Et je me suis dit, ouais, et c'est l'ONF qui fait ça. Malheureusement, pour l'instant, c'est encore comme ça. Donc voilà, en résumé, le vivant, le laisser tranquille. Demain, si les gens ils veulent une belle forêt, quoi que ce soit, tu prends un carré, tu fais une frontière autour, tu laisses personne y pénétrer, et le vivant, il aura la paix royale.
Je sais, ça fait longtemps que je n'ai vu tes rives, la rumeur...
On va passer à la question d'actualité. Le précédent épisode Feuille de Chou, qui a été diffusé semaine dernière en podcast sur le site de notre radio PFM, portait sur le cas de la Corse où la reconnaissance des droits du fleuve Tavignanou semble faciliter la protection de ce dernier envers des projets majeurs comme la création d'une méga décharge. Ainsi, dans cet épisode, on a pu retracer les différentes actions emblématiques de reconnaissance des droits du vivant, comme la Mare Menor en Espagne avec l'acquisition des droits fondamentaux pour le site, ou bien encore la Nouvelle-Calédonie qui a attribué un statut de personne morale aux requins et tortues marines. Les arbres n'échappent pas à cette considération, et outre les outils pour en calculer la valeur économique, on peut prendre exemple sur la déclaration du droit des arbres, où toute commune volontaire peut ainsi s'engager à considérer les intérêts de l'arbre en priorité, avant toute action pouvant potentiellement lui nuire. Alors on l'a bien compris, cette prise de considération du vivant et dans une optique d'anticipation de projets destructeurs, tandis que la démarche visant à légiférer l'écocide suppose que le mal a déjà été fait. L'un et l'autre sont complémentaires dans un futur où la complexité des écosystèmes et leur apport vital pour notre survie seront considérés, a priori, à leur juste valeur. À la lumière de ta vision du vivant, que penses-tu de tout cela ?
Que t'as sauvé ma peau. Oui, du cœur, toi l'apôtre de Flaubert et d'Hugo.
Je trouve que c'est très bien si ça a permis des projets autour du fleuve. Il faudrait peut-être que ça se généralise un peu, parce que comme tu l'as très bien dit dans la présentation, malheureusement, souvent le mal est fait avant qu'on réagisse. Après, bon, c'est sûr que c'est bien qu'il y ait des organismes qui défendent la nature, mais ce qu'il faut surtout, c'est l'inculquer aux enfants plus jeunes dès l'éducation pour que ça arrive plus par la suite, quoi. Il serait temps qu'on fasse des choses de ce genre au final. Et on a des tas d'exemples de choses qui se sont faites, qui ont créé des gros problèmes et qui se répètent toujours en fin de compte. Est-ce que ce genre de choses peut enrayer ça? Ça serait pas mal. Ça paraît bête à dire, mais même certaines haies, des plantes, tout ça, moi quand je suis chez des clients, que par exemple je taille des tuyas, parce qu'il n'y a pas des gros arbres, etc. Mais le tuyas, il y a des périodes pour le tailler. Il y a des périodes pour le tailler, pour le faire, pour que l'arbre reste beau quand on le fait à telle période. Et moi, il y a des endroits où je les taille que les 1 an et demi ou tous les 2 ans. Certaines tailles, pareil, quand on s'occupe de la nature, il y a beaucoup de gens qui ont oublié que la lune, elle a une grosse influence sur les végétaux et sur la nature en général. Et travailler avec certaines phases de lune en cycle, et non pas à la chaîne comme nous on le fait, ça impacterait beaucoup moins la nature. Par exemple, en fait, toutes les bêtes dans le monde, que ce soit les vaches pour l'herbe, les chevreuils, tout ce que tu veux, tous les herbivores, broutent toujours face au vent. Parce qu'en réalité, par exemple, quand un chevreuil vient grignoter une feuille sur un arbre, l'arbre, il lâche des phéromones dans l'air pour prévenir ses congénères qu'il est en train de se faire manger. Et donc les phéromones, les congénères qui vont prendre les phéromones, ils vont sécréter quelque chose dans leur sève afin de rendre, en gros, pour plus que leur feuille, elle soit appétissante pour la bête, tu vois. Donc s'il va dans le sens du vent, il va manger pas bon toute la journée. Et c'est un exemple de défense des plantes, etc. Et il y a plein de choses que, tu vois, je disais tout à l'heure que l'exemple que je prenais avec la planète, si on enlevait les hommes, les arbres, etc. Les plantes savent faire des choses que nous, on ne sait pas faire. Par exemple, il y a des expériences qui ont été faites où sur un terrain divisé en 3 parties égales, on a mis que de la terre sur 1/3, de la terre et des cailloux sur le 2e tiers, et sur le 3e tiers, que des cailloux. Ils ont planté des arbres là-dessus, donc évidemment, les premières années, ceux qui étaient en pleine terre étaient très beaux, ceux qui étaient dans les cailloux étaient tout rachitiques. Mais au bout de 30 ans, ils faisaient tous la même taille, ils étaient tous exactement pareils. Si nous on savait faire ça, on aurait plus de tiers-monde déjà depuis un moment. Et les plantes, ça va prendre aussi. Il y a des plantes qui vivent dans des zones tropicales, dans des montagnes, qui ont des grandes feuilles comme de la rhubarbe, un petit peu, si tu préfères. Et là-bas, dès qu'il pleut, qu'il y a du vent, et il y a du vent en même temps, pour pas que les feuilles s'arrachent, dès que la plante sent une goutte d'eau sur sa feuille, la feuille s'enroule sur elle-même pour pas être arrachée par le vent. Et donc ça protège la plante, et en plus elle peut garder un peu d'eau à l'intérieur de la feuille avec les cônes. Et ils ont fait des expériences au laboratoire, ils ont mis dans une cage, hop, de l'eau dessus, sans vent. Et au bout d'une heure et demie, la plante, elle a rouvert sa feuille toute seule, elle a compris qu'il n'y avait pas de vent. Malgré qu'il y avait encore l'eau, il y a des exemples comme ça, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et après, surtout pas oublier que nous, on est un peu déconnectés de la terre, mais les arbres, les animaux sont liés entre eux. Il y a beaucoup d'espèces d'arbres qui sont liées à certaines espèces d'animaux, comme le chêne et le sanglier, par exemple. En France, bon, t'as des forêts un peu partout, quelle que soit leur taille, avec des sangliers. Il faut savoir que les forêts, les chênes, ils font pas leurs fruits tous les ans. Il y en a qui font tous les 3, tous les 5, tous les 7 ans. Mais ça marche par forêt. C'est-à-dire que quand les faines, les glands, ils tombent, les populations de sangliers, elles gonflent à ces époques-là. Donc un chêne, s'il fait des glands tous les ans, il va nourrir les cochons qu'il y a à ses pieds, et à la fin, il y aura tellement de cochons qu'ils vont manger tous les glands et il n'y aura plus de chênes. Donc, il y a certaines forêts, il y a beaucoup de sangliers, ils font leurs glands tous les 5, 7 ans, et d'autres fois tous les 3 ans par rapport au nombre de bêtes. Mais comment l'arbre, il sait le nombre de sangliers qu'il y a dans la forêt, etc., on ne sait pas encore. Et pire, c'est que dans tous ces chênes, ils ont tous un âge différent. Je demande lequel décide et dit aux autres, bon, bah, c'est cette année qu'on fait les glands, et voilà. Le chêne contrôle les populations de sangliers, tout seul, dans la forêt. Il n'y a pas besoin d'un mec avec un gilet jaune et des balles et ce qu'on veut. Après, je préfère sincèrement voir des gens chasser pour se nourrir que des gens acheter de la viande dans un magasin et cautionner des gros abattoirs, on va dire. Moi, si je pouvais, je mange pas beaucoup de viande, mais j'ai bossé dans l'agricole. Dans l'agricole, j'ai bossé dans des poulaillers industriels. J'ai pas mon permis de chasse, hein, mais je préférais l'avoir, aller tirer un faisan de temps en temps, un coup tous les mois ou tous les 2 mois, que d'acheter mon escalope de poulet parce que je sais pas où elle est passée, quoi.
On va passer à l'agenda librairie. Quel rendez-vous ou référence souhaiterais-tu nous communiquer ?
Il y a un auteur qui m'a beaucoup inspiré, dont j'ai oublié le nom, mais qui a écrit La vie secrète des arbres, dont est tiré la moitié des exemples. Ouais, mais c'est bien aussi, c'est un très bon exemple ce gars-là, parce qu'il a passé sa vie à choisir des arbres tout droit pour faire des planches. Il a mis 30 ans à comprendre certaines choses, mais voilà. C'est très bien. Le fait qu'on fasse de la monoculture avec des arbres, c'est C'est comme on fait comme dans les champs en fait, c'est incroyable, on mélange pas les plantes, c'est tout pareil. Comme la pisciculture, c'est la monoculture de truite, maintenant la forêt, c'est la monoculture de Douglas. C'est pas du tout de la forêt en fait. Et après, sinon, j'ai un petit hobby qui s'appelle le slam. Donc je vais à des rendez-vous sur l'île généralement pour des soirées slam, des scènes ouvertes et des ateliers d'écriture. Et j'y vais demain. Donc c'est généralement au Sarrasin à Lille, rue des Sarrasins, au Sarrasin. Et c'est tous les derniers mercredis du mois. Le présent, c'est le fruit du passé, mais la graine du futur.
Cet épisode aux côtés d'un acrobate entre ciel, branches et racines prend fin. La semaine prochaine, le vivant réclame notre attention sur de nouvelles feuilles de choux fraîchement cueillies.
Mais l'aise tremble, tremble être noyée.